Réplique, la vie quotidienne au collège avec Mara Goyet et Yanis Roder. Vous osez émettre un jugement ou exprimer une inquiétude sur l'évolution de l'école et que vous n'êtes pas vous-même en première ligne, on vous reproche immanquablement d'ignorer dans votre tour d'ivoire nostalgico-républicaine la vérité du terrain. Pour qu'il ne soit pas dit qu'à réplique on prend les choses de haut et qu'on parle sans savoir, j'ai donc invité le terrain en personne. En deux personnes même, Mara Goyet et Yanis Roder sont tous deux professeurs d'histoire et géographie au collège. Elles publient Jules Ferry et l'enfant sauvage, Sauver l'école, et Yanis Roder est l'auteur d'un essai qui a fait date, Tableau noir, la défaite de l'école. Et comme c'est par comparaison avec le passé que le présent peut apparaître dans sa spécificité, je vous demanderai d'abord, Mara Goyet et Yanis Roder, de faire appel à vos souvenirs, moins anciens que les miens. Vous êtes beaux et jeunes, mais déjà lointains. Avant d'être professeur et d'occuper l'estrade, vous avez été élève et vous avez écouté le maître sur l'estrade. J'aimerais que vous me disiez ce qui a changé dans les collèges de France entre ces deux moments de votre vie, Mara Goyet.
Tout d'abord, mes souvenirs de collège sont des souvenirs de la part de nous, élèves, de grande docilité et même d'apathie. Je crois qu'on se posait peu de questions, on contestait peu et on apprenait, mais on apprenait d'une manière qui n'était pas toujours ni judicieuse ni intéressante. Donc j'ai surtout ce sentiment-là, mais j'ai un sentiment d'adhésion totale de la part de la plupart des élèves à la parole du maître, en tout cas, et de ma part, d'une admiration pour mes professeurs assez considérable.
Yanis Roder.
Tout dépend d'où on parle en réalité, parce que j'étais élève, moi, dans un collège de plutôt beau quartier, avec une population qui, comme vient de le dire Mara Goyet, qui était tout ouïe, qui écoutait l'enseignant avec religiosité presque, et qui buvait ses paroles. Donc il m'est très difficile, moi, de faire une comparaison, sachant que cela fait maintenant, je ne saurais pas dire le nombre d'années, mais oui, 17 ans, que je suis en zone dite difficile, dite sensible. Le public que j'ai en face de moi n'est pas du tout le public dans lequel moi, j'étais enseigné, hein, j'étais élève. Donc ça m'est très difficile. Ce que je vois néanmoins de différent, si je peux me permettre de comparer deux milieux qui sont totalement différents, et il faut garder cela à l'esprit, c'est le rapport à l'avenir. Alors peut-être que dans les collèges à l'époque de banlieue, ce rapport à l'avenir était le même qu'aujourd'hui, mais je suis frappé, moi, par l'absence chez certains de mes élèves et chez un nombre important en réalité, d'absence de capacité à se projeter. C'est ce qui me frappe. Nous avions, nous, conscience, me semble-t-il, mais encore une fois, dans un milieu plutôt privilégié, que des choses se construisaient, des choses se mettaient en place, que tout cela se faisait sur un temps long. J'ai en face de moi des élèves qui sont dans l'immédiateté et pour qui l'avenir est quelque chose de totalement flou, voire inexistant. Et c'est ce qui me frappe.
Alors, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que vous n'enseignez pas aujourd'hui dans les mêmes lieux. Mara Goyet, vous avez enseigné au collège dans des quartiers dits difficiles, puis vous avez été transféré, si je puis dire, muté, voilà, à Paris, dans le 15e, puis, m'avez-vous dit, dans le 7e arrondissement. Mais en dépit de cette différence, vous constatez, vous aussi, que les élèves ne sont pas gagnés d'avance, qu'ils ne sont pas dociles, que la culture académique n'est pas l'objet chez eux d'un respect a priori. Alors comment expliquez-vous cela? Au fond, finalement, cette ressemblance, on verra les différences ensuite, entre deux publics socialement aussi hétérogènes, les défavorisés d'un côté, les privilégiés de l'autre, Mara Goyet.
Je crois que la jeunesse est beaucoup plus unifiée aujourd'hui par les réseaux sociaux, par Facebook, par les références, qu'elle pouvait l'être à notre époque. Je crois que vraiment, à notre époque, il y avait deux jeunesses. Quand on était à Paris, on ignorait absolument tout ce qui se passait au-delà du périphérique. On n'était ni dans la fascination, ni dans le mépris, ni rien. Et c'était pareil des deux côtés. Je crois qu'on était beaucoup plus coupés. Là, on a vraiment affaire à une jeunesse avec ses références, avec ses réflexes, avec ses représentations. Et dans un collège du 7e, c'est assez différent, évidemment, l'enseignement, parce qu'il n'y a pas la question de l'ordre qui nous obsède, ni celle de l'autorité. C'est-à-dire que quand on arrive pour faire cours, on fait cours. Alors évidemment, il y a des bavardages, c'est pas un tapis de rose, mais il n'y a pas la question de l'ordre. Et ce que je trouve passionnant, c'est que justement, on est débarrassé de la question de l'autorité et on est directement confronté à celle de la transmission. Et la transmission, elle est compliquée avec tous les jeunes aujourd'hui. Et c'est compliqué, mais c'est passionnant.
Et c'est plus compliqué que ça ne l'était, ça vous pensez?
Mais j'ai le sentiment qu'on adorait des professeurs qui faisaient pas tant d'efforts que ça et qui n'étaient pas si attachés à la culture. Je crois que quand même il y a un mythe sur les professeurs qu'on a eus. Ils n'étaient pas non plus incroyablement attachés à la culture, aux grandes œuvres. Ils n'étaient pas pleins d'euphorie et de joie de transmettre. C'est pas vrai, mais nous, on les idéalisait a priori. En revanche, je pense que la difficulté crée chez nous une ferveur et une envie de transmettre. Et le sort de la culture aujourd'hui crée chez les enseignants d'aujourd'hui un attachement, une urgence, un sentiment d'urgence qui fait que je crois qu'on est moins respectable en apparence, mais plus respectable dans le fond.
Yannis Roder, est-ce que vous êtes d'accord avec ce jugement? Après, j'aurai une question plus précise pour vous.
Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Et c'est vrai que cette proportion que nous avions à mettre sur un piédestal nos professeurs à l'époque, eh bien, c'est vrai qu'on peut revenir dessus aujourd'hui parce que je vois, et Mara Goyer a enseigné plus de 10 ans en zone sensible, donc elle sait ce que c'est. Je vois les efforts que nous faisons pour essayer de faire aimer notre matière, de transmettre, comme vous l'avez dit, et c'est très important parce que nous sommes là pour transmettre. Il n'y avait pas effectivement nécessairement ces recherches, ce travail qui était fait et que nous sommes obligés de faire pour capter l'attention des élèves qui sont les nôtres aujourd'hui, même si je pense que le rapport à l'ordre et l'autorité dont vous parler n'est pas nécessairement si prégnant dans les collèges de zones sensibles. Ce n'est pas. On peut faire des cours. J'arrive le matin en entrant en cours. Je ne me dis pas que je vais à la guerre, quoi. Oui. Heureusement.
Bon, mais en même temps, ce qui a changé aussi, c'est peut-être le rapport général de la société à la culture. François Dubet dit l'école a gardé le monopole de la culture académique. Elle n'a plus le monopole de la culture ouverte. Et il est vrai aussi qu'une continuité s'est créée avec le culturel, entre ce qu'on appelle la culture humaine, académique, et toutes les autres formes de culture. On a horreur de la distinction aujourd'hui, puisque la distinction n'est rien d'autre que la stratégie d'une classe, la classe bourgeoise, pour éloigner les pauvres, pour marquer son mépris des pauvres. C'était la thèse de Bourdieu en 1971, mais elle a fait des petits. Donc, c'est à se demander, si vous voulez, moi on m'accuse de défendre une école ringarde, mais je ne suis pas là pour parler de mes positions. Je me demande simplement si ce n'est pas l'école elle-même qui tente à devenir ringarde. Il y a un film qui est sorti que je n'ai pas vu, Bande de filles. Je ne sais pas si vous l'avez vu l'un et l'autre, mais j'ai lu avec attention un entretien dans Libération avec sa réalisatrice, Céline Sciamma, je crois. Ce sont des jeunes filles noires en banlieue qui s'épanouissent et qui s'émancipent. Mais on ne pense pas qu'elles puissent s'émanciper par l'école. Elles s'émancipent de l'école, puisque d'ailleurs, d'après ce que dit la réalisatrice, eh bien, il y a aujourd'hui, parmi les formes d'assignation, voire de stigmatisation, eh bien, il y a le fait qu'on condamne une certaine jeunesse à être méritante. Et elle dit, par exemple, les personnages qui forcent le respect parce qu'ils réussissent à l'école notamment ne font pas bouger les lignes. Ils sont réconfortants sur le moment, bien sûr. Pour faire bouger les lignes, elle prend une jeune fille qui est en difficulté scolaire, qui fait des fêtes avec des vêtements chapardés. Il est bien dit que c'est chapardé. Non. Il y a cette idée que la vitalité, de toute façon, et la qualité, la spontanéité, vous en parlez dans vos livres respectifs, sont des qualités qu'il faut encourager, qu'il faut respecter, qui sont la liberté même. Et c'est pas par l'école que ça passe. Donc, est-ce que le climat social n'est pas aussi pour beaucoup dans le spleen d'un certain nombre de professeurs et à la fois dans la difficulté à exercer l'autorité et dans la difficulté à transmettre?
Je crois que les professeurs sont dans le spleen parce que on a pour habitude de se braquer contre le climat social. Alors, ça ne veut pas dire se mettre à genoux, se prosterner devant ce qui peut se passer, devant la vitalité, les émancipations, mais c'est simplement, ça veut dire pour ne pas déprimer dans ce métier, il faut quand même savoir d'abord à qui on s'adresse. On ne fait pas un cours comme on jette de l'huile bouillante par-dessus une muraille. Il faut savoir qui nous avons en face de nous. Et c'est important pour faire bien notre métier. Et par ailleurs, il faut créer les maillons intermédiaires entre ce que nous apprenons, qui est la culture la plus académique, certes, et les élèves. Sinon, on construit sur du sable. Sinon, ça ne reste pas. C'est simplement pragmatique de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on est béat d'admiration devant le moindre clip qui passe.
Mais la culture académique, c'est un bien grand mot, parce que je ne vois pas ce que Verlaine, Rimbaud, Nerval, même Balzac ont d'académique. Ni d'ailleurs...
Non, c'est une expression
c'est une expression qu'on n'est pas obligé nous-mêmes de reprendre à notre compte. Mais vous dites, nous avions un respect a priori, qui était peut-être aussi une docilité de gens qui ne réfléchissaient pas. Mais ce respect existe-t-il même aujourd'hui à l'extérieur de l'école ? Et s'il n'existe pas à l'extérieur de l'école, est-ce que ça ne complique pas votre travail ?
Et je pense qu'un des endroits dans lequel il y a le plus de respect aujourd'hui, c'est à l'école. Vous allez parler avec des policiers, vous allez parler avec n'importe qui, des conducteurs de bus, ils sont extrêmement maltraités par rapport à nous.
Non mais voilà. Le respect pour la culture académique, c'est ça que je veux dire. Le respect pour la culture dite académique elle-même.
Il n'y a pas de respect a priori parce qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur la culture. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on ne baisse pas les bras, ça marche. Et la culture impose son respect d'elle-même à condition d'avoir des professeurs qui s'en chargent. Mais après, ça marche vraiment.
Ce qui n'empêche pas, effectivement, certains élèves de continuellement demander « Mais à quoi ça sert ce qu'on fait ? Pourquoi on étudie ce texte ? Pourquoi on étudie ? Pourquoi vous nous parlez de ça ?» Et qui sont, effectivement, qui sont dans un refus, mais un questionnement, on va dire, permanent sur l'utilité. L'utilité de ce que nous sommes en train de faire. Et je reviens à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas la construction qui est en train de se faire et qui est une construction sur le long terme. Donc, néanmoins, les élèves aiment les enseignants, me semble-t-il, il ne s'agit pas de se faire aimer, hein, mais aiment l'enseignant qui les respecte en leur apportant du contenu, et un véritable contenu. Ce n'est pas parce que nous enseignons ou nous avons enseigné dans des milieux difficiles qu'on doit leur faire de la bouillie. Bien au contraire, il faut leur donner justement ce que vous appelez, justement ou pas, la culture académique.
Ce que je n'appelle pas la culture académique.
Ils en ont besoin. Ils en ont besoin.
J'appelle ça la culture tout court.
Bien que cette réalisatrice dise que voilà, il faut jouer sur la spontanéité, la vitalité, bien sûr, mais d'abord, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, ces élèves ont besoin parce qu'ils vont se confronter à une autre réalité qu'à celle de bande de filles.
Non, elle dit on les condamne à être méritants, et vous savez aussi que le gouvernement a voulu supprimer les bourses au mérite. Alors si vous ne pouvez plus jouer sur le mérite au collège, ça doit être un peu difficile. Il semblerait d'ailleurs que le Conseil d'État ne soit pas tout à fait d'accord avec cette suppression.
Oui, parce que quand même, la question du mérite, là, c'est très bien qu'on en parle, parce que ça fait partie de notre quotidien. Il y a les bons élèves, il y a les méritants, et il y a ceux qui n'ont aucun mérite. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? On en est autant responsable que des autres. Voilà, je crois que c'est important
qu'est-ce
de parler
aussi.
Qu'est-ce
que ça veut dire, ceux qui n'ont aucun mérite ?
Ceux qui sont nuls, qui sont feignants, qui font rien, qui sont désagréables, qui vont tout faire pour saboter les cours.
Même dans le 7e arrondissement ?
Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Eh bien, de ces élèves-là, nous sommes aussi responsables. Nous sommes responsables de tous, méritants ou pas. Ça, c'est la vraie question. C'est après le mérite, que se passe-t-il ? Il y a une sorte de zone d'ombre. On essaie de s'en débarrasser et ça me semble irresponsable.
Oui, mais en même temps, il faut continuer à faire du mérite une valeur. Si le mérite est une simple preuve de soumission, comme a l'air de dire cette réalisatrice, si on lui préfère le repli sur l'origine sociale, etc., pour affirmer ses droits et ses créances, c'est un peu embêtant, à la fois pour ceux qui ont du mérite et pour ceux qui n'en ont pas, mais dont on voudrait leur transmettre au moins cette idée. Mais j'ai une autre question à vous poser, parce que vous avez eu des maîtres sur l'estrade. Aujourd'hui, vous êtes sur l'estrade, c'est-à-dire vous êtes des professeurs. La parole est votre royaume et vous aimez l'un et l'autre faire court et vous ne voulez pas pactiser avec ça. Mais des choses se passent. Parce que là, j'ai un numéro du Monde incroyable du vendredi 10 octobre. L'école française en retard d'une révolution. Cette révolution, c'est le numérique. Donc je voudrais qu'on en parle, d'ailleurs, du numérique en général à l'école. Mais là, il est dit que par le numérique... tout va changer. Et on vous cite Sophie Penn, responsable du groupe École au Conseil national du numérique, et on la cite en très très bonne part dans ce journal, « Le cours va disparaître à plus ou moins longue échéance ». Moi, j'ai reçu des cours, j'ai fait des cours. Ça a commencé en Occident avec Platon et Aristote. Et maintenant, on nous dit, ça s'arrête. Ça s'arrête grâce au numérique. Donc, c'est comme si on vous demandait de changer de métier. Et d'ailleurs, tout ce qu'on appelle la professionnalisation des enseignants, c'est habituez-vous à changer de métier. Vous avez passé le CAPES et l'agrégation en croyant que vous alliez faire cours. On vous apprend qu'il s'agit d'autre chose. Alors, que pensez-vous de cette révolution et de cette métamorphose même du métier que vous exercez après l'avoir vu s'exercer par d'autres? Mara Goyer.
Moi, cette révolution me fait doucement rigoler. On parle du quotidien au collège. Alors, quel est le quotidien au collège? Un ordinateur qui marche une fois sur 10, un réseau qui marche une fois sur 20, un vidéoprojecteur dont on a perdu la télécommande, il faut monter sur une chaise pour pouvoir l'allumer, et ensuite, pas de store au rideau, donc on ne voit pas l'écran blanc. C'est ça le numérique à l'école, ça ne marche pas du tout. Donc cette révolution numérique rassure tout le monde.
Mais imaginez qu'un jour ça marche. Imaginez qu'à force de vouloir numériser l'école, un gouvernement de droite ou de gauche, de ce point de vue-là, ils sont absolument sur la même ligne, mettent le paquet.
Mais ils aiment le gadget, voilà. Imaginez l'équivalent il y a 100 ans avec le télégraphe va révolutionner l'école.
Mais est-ce que vous pensez que vous deviendrez des bibliothécaires?
Mais pas du tout, non.
Et que vous aiderez les élèves à trouver les
consignes. Si vous me permettez, c'est une illusion totale. Oui. C'est une illusion totale. Je vois, alors peut-être, c'est peut-être particulier, mais je ne crois pas aux difficile. Le rapport élève, le rapport humain élève enseignant est fondamental. Mara Goyer cite Jean-Pierre Vernant ce beau texte sur l'élève, le rapport élève et sur l'amitié qui se construit. Alors évidemment, la distance continue d'exister, évidemment, mais ce rapport-là, il est fondamental. Et certains élèves ont besoin de ce rapport, qui est un rapport, évidemment, qui est un rapport d'enseignant-enseignant, mais aussi affectif. Et beaucoup d'élèves, moi je le vois, se mettent à travailler. J'ai en tête un élève qui est venu me voir il n'y a pas longtemps à la sortie d'un cours, en me disant « je sais que vous êtes déçu par mon travail ». Mais je vais faire mieux. Il n'était pas déçu pour lui, l'élève, c'est moi qui devais être déçu pour lui. Et il pensait que j'étais déçu pour lui, il avait raison, ceci dit. Mais ce rapport humain, il est quand même fondamental. Et peu importe ses gadgets numériques, c'est une...
Et physique, surtout la présence physique du prof.
Comment vous pouvez dire peu importe, puisque quand même, on va vers ça en dépit de votre expérience, en dépit de ce qu'ont dit les rois de l'Internet.
Bien sûr.
Steve Jobs. Interviewé en 2010 par un journaliste américain en disant, qui lui dit, mais votre iPad, votre fils,
il ne fait,
fils,
il ne fait pas partie
ravi.
De ces gens qui mettent leurs élèves dans des
non,
écoles...
bien sûr. Et si vous avez dit, mais l'iPad, il n'y en a pas chez moi. Il n'y en a pas chez moi. Je ne veux pas qu'il y ait trop de technologie à la maison. Je protège mes enfants. Comme les membres, les dirigeants du cartel de la drogue protègent leurs enfants de la cocaïne. Et en effet, la plupart des cadres dirigeants de Yahoo, d'Apple, de Google, etc., et de eBay, mettent leurs enfants dans des écoles déconnectées. Mais vous dites, ça ne marche pas, mais on est en train de connecter tout ça.
Non, mais ça va retomber. C'est comme les maths modernes et la grammaire du discours en sixième. Ça va. À terme, ça sera quoi? Ça sera des élèves avec des iPads ou autres qui auront évidemment des sacs plus légers. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'ils ont des sacs considérables. Mais ça ne changera pas profondément la manière de transmettre.
Alors, il y a quand même quelque chose qui a changé, et ce sera dernière partie de ma question sur Internet. Vous faites vos cours, et les élèves peuvent se renseigner sur Internet, ou en tout cas, ils ont des habitudes de communication par les réseaux sociaux, etc., avec Internet. Pour Michel Serres, c'est un bien. C'est même, dit-il dans Petite Poursade, la raison pour laquelle les élèves maintenant bavardent, parce que de toute façon, ils savent à l'avance que dernier le professeur, etc. Mais pour vous, comment, dans la vie quotidienne, ressentez-vous la présence d'Internet dans vos classes, quoi?
Effectivement, les élèves sont hyper connectés. En permanence.
Hein,
pas dans les classes, mais parce que c'est interdit. Enfin, on essaye de l'interdire.
Que l'on croit.
Voilà, ce que l'on croit, bien sûr, mais on les voit. Hein. Mais ils sont hyper connectés et en réalité, ils sont connectés entre eux. Ils ne sont pas connectés vers l'extérieur. Internet ne sert pas à aller se renseigner sur le cours d'histoire qui va venir, dont le prof a annoncé la venue, ou sur le cours sur le développement durable qu'on vient de faire en classe de 5e. C'est une illusion. En revanche, ils sont connectés entre eux dans un réseau extrêmement fermé. Ils restent dans leur monde. Donc le fait de croire que les élèves savent tout en arrivant en classe, mais c'est totalement faux. Moi, mes élèves, en entrant en 3e, ne savent même pas qui est Adolf Hitler.
Oui, mais d'un autre côté, Internet, c'est le lieu où s'exprime particulièrement la pensée du complot. C'est sur Internet que, effectivement, alors, on vous apprend que le 11 septembre n'a pas eu lieu ou n'a pas eu lieu comme on pense, etc., etc. Cette pensée du complot est-elle présente chez vos élèves, notamment dans les cours qui sont les vôtres, d'histoire ?
Cela peut arriver, effectivement. Je me souviens très bien du 11 septembre 2001. On voit très bien, on a senti un frémissement, même plus que cela, avec l'affaire Dieudonné au printemps dernier, où effectivement, Internet, là, nourrit l'interrogation de certains élèves, je dis bien de certains élèves, parce que tous ne sont pas connectés comme cela, et qui viennent poser des questions à l'enseignant, mais pas de manière nécessairement provocatrice. Et c'est là où le rapport humain est extrêmement important. Si la confiance s'est instaurée avec l'enseignant, ils viennent très naïvement poser... Alors, on est au collège, on n'est pas au lycée. Donc politiquement, ils sont encore peu formés. Quoique, ils viennent poser des questions à l'enseignant. Mais vous avez dit ça, sur Internet, il y a ça. Qui a raison ? Le problème, c'est l'absence de hiérarchisation de la parole. Et ça, ça pose question parce que, ça, justement, dans le rapport que nous avions, nous, à l'enseignant, puisqu'on revient à cela, cela a disparu. Il peut arriver que la parole de l'enseignant vaille la parole d'Internet et une image d'Internet.
Alors, est-ce que vous vous êtes heurté à ce problème ?
Oui, je crois qu'une grande partie de notre métier, c'est de détricoter et de le faire avec tact et subtilité. Ça, c'est très, très dur. Des rumeurs ou des conceptions complotistes de la société, c'est extrêmement compliqué. Mais ça, justement, là, notre métier est aussi intéressant. Il est plus difficile, mais il est intéressant.
Tout le travail, effectivement, est de faire travailler les élèves sur ces représentations, sur ces images, et de mettre cela en relation avec le cours d'histoire. Par exemple, sur le complotisme, évidemment, un bon cours sur le nazisme permet de voir que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, que c'est repris d'une vieille histoire et que tout cela traverse les âges, traverse les décennies et continue aujourd'hui. Et cette mise en rapport questionne les élèves et eux-mêmes parfois peuvent arriver à dire que oui, c'est une vision idéologique, c'est une vision complotiste. Encore faut-il que ce soit des élèves qui soient réceptifs à ce que dit l'enseignant.
Alors, un bon cours sur le nazisme, arrêtons-nous à cette question et ça nous amènera à réfléchir justement au grand changement, massification d'un côté, modification aussi du public scolaire avec les grandes vagues d'immigration. J'ai sous les yeux un autre témoignage que les vôtres, de Jean-François Chemin. Il a choisi un titre qui voulait faire moderne, heureusement. « Kiffe la France », malheureusement. Mais c'est un livre absolument passionnant d'un homme qui a tout quitté pour passer l'agrégation d'histoire et pour devenir professeur au collège d'histoire. Et voici ce qu'il raconte. Il doit, avec ses troisièmes, banlieue difficile comme on dit, étudier la Shoah. Finalement, il ne souhaite pas projeter encore une fois nuit et brouillard, il s'y résout malgré tout, parce que les gens sont très excités, tout ça se passe mal, et à la vue des femmes à poil, toute la classe a éclaté de rire. Et ensuite, l'un des élèves dit « On ne peut pas nier que ce soit passé comme ça, mais est-ce que vous ne croyez pas que le vrai problème n'est pas que ça se soit passé, mais que ça ne se soit pas allé jusqu'au bout ? Voyez tous les malheurs qu'on aurait évités depuis 60 ans. » Bon, je voudrais en rester une seconde au rire. Parce que vous aussi, vous heurtez au problème du rire.
Un
rire très nouveau et très ancien à la fois. Un élève qui, devant une montagne de déchets, des enfants sur une montagne de déchets dans un bidonville, dit « c'est leur centre commercial, rire général ». Parce que le rire de l'humour, c'est un moment précis de l'histoire. On a le sens de la relativité des choses, on prend distance avec soi-même, on rit de soi. Le rire originel, c'est un rire barbare, on rit de la faiblesse, on rit de l'altérité, on rit... Voilà. Et on a l'impression que c'est ce rire barbare qui, aujourd'hui, déferle dans les écoles. Alors, que pensez-vous de l'expérience relatée par Jean-François Chemin ? Avez-vous rencontré ça sous une forme ou sous une autre ? Et comment y réagir ?
D'abord, les deux situations sont très différentes. Il va falloir faire une petite typologie des rires. Mes souvenirs personnels d'élèves au collège. En troisième, on m'a passé nuit et brouillard. Je viens en partie d'une famille juive qui a été exterminée pendant la guerre. Donc je ne prends pas ces questions à la légère. C'est très douloureux. Je me souviens d'avoir rigolé moi-même devant des corps de femmes nues parce que l'horreur crée... Et en plus des corps de femmes et la nudité devant des élèves de troisième, ça les met dans des états seconds et l'état second provoque le rire. Donc c'est normal, là il y a un défaut dans l'enseignement, en tout cas tel qu'il est décrit, de ce chapitre qui est, je crois, le plus difficile de tout le programme d'histoire de toutes les années de l'enseignement. Donc déjà, la gêne des adolescents devant l'horreur, on attend d'eux du recueillement.
Mais ce soit seulement la gêne.
Non, alors, je ne minimise pas du tout l'antisémitisme, mais moi, on ne pouvait pas me taxer d'antisémitisme, et j'ai rigolé quand j'étais élève. C'est simplement, l'antisémitisme ne se manifeste pas en cours, en tout cas, à mon avis, par les rires devant de telles situations. La montagne de déchets, c'est une autre question. On prend des élèves en otage, avec cette sorte de programme affreux qui fait du catéchisme, du développement durable. On leur montre des bidonvilles à longueur de journée. On leur fait une leçon, deux leçons, trois leçons. Il y a trop de monde sur Terre. Ah, c'est dangereux pour la planète. Il y a un tsunami, c'est dangereux pour la planète. Les gens crèvent de faim, c'est dangereux pour la planète. Après, ça donne les Roms, c'est dangereux pour la planète. Ça donne ça. C'est ça l'idéologie de ce programme qui est, à mon avis, dangereuse. Donc là, les élèves font de l'humour aussi. Ils voient le truc. C'est comme dans les habits neufs de l'empereur, ils disent le roi est nu.
Vous essayez de faire du pathos. Et la quenelle de Dieudonné, vous la mettez. C'est quel rire alors? Parce que sur Internet, c'est Dieudonné qui fait le buzz. C'est Chouananas qui fait le buzz. Et là, c'est peut-être une réponse, je veux bien d'ailleurs, une sacralisation indue ou mal faite d'un événement historique.
Non, la querelle, c'est un geste antisémite.
Et puis
pur,
en même temps, si on oublie l'antisémitisme, il y a quand même aussi une envie de rire des autres, dans ce qu'ils peuvent avoir de différents, dans ce qu'ils peuvent avoir de fragiles, etc. Cette envie de rire, elle est dans la dérision qui déferle aussi sur les ondes et qui n'a qu'un très loin rapport avec l'humour dont je parlais tout à l'heure. Donc peut-être que les élèves aussi sont sensibles à ce mouvement-là.
Mais à côté de cette envie de rire, il y a aussi un politiquement correct énorme qui fait que vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit sans entendre, ça ne se fait pas. Donc c'est plus compliqué que ça, le rire de la part des élèves. Je crois qu'il y a plusieurs situations. Et puis, plus on les compresse, plus on les oblige, plus ils explosent. Alors évidemment, quand ils rigolent devant nuée et brouillard, ça nous semble insupportable. Et c'est insupportable, mais ce n'est pas forcément ce qu'on croit a priori qui est dit là.
Yannis Roder. Oui, les élèves aiment rire. Ça tombe bien, leurs profs aussi. Et nous rigolons beaucoup. Mais nous rigolons tout en étant sérieux.
Est-ce qu'ils rient d'eux-mêmes ?
Oui, bien sûr, ils rient d'eux-mêmes. Ils sont capables de rire, pas tous, mais ils sont capables de rire d'eux-mêmes quand même. Alors l'empathie, effectivement, certains en sont capables, d'autres en sont beaucoup moins capables. Et ça, c'est frappant chez certains élèves qui sont dans un rire qui peut être cruel. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur Nuit et Brouillard, le rire... Aussi, et Maragoyer l'a dit, c'est aussi une défense, le rire. Et la pédagogie qui a été choisie là, bon, il se trouve que c'est un petit peu mon domaine, ces questions-là. Cette pédagogie du choc, elle est totalement contre-productive. Et d'ailleurs, le livre le montre très bien. On pourrait poser la question à l'enseignant qui a écrit ce livre, qu'ont compris les élèves à la fin du film? Moi, j'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien le savoir. À mon avis, absolument rien. Et d'ailleurs, ils n'ont rien compris, puisque au final, on en arrive à des propos comme cela. Moi, j'enseigne depuis 16 ans, 17 ans en zone difficile. J'ai bien sûr des remarques antisémites de la part de certains gamins, régulièrement, tous les ans. Je sais que ça va venir et ça vient. J'en ai eu l'autre jour, voilà. Mais la façon, le rapport de l'enseignant aux élèves et la façon dont le professeur va mener son cours sur cette question si difficile de la Shoah va aussi conditionner les propos qui vont sortir ou pas. Et ça, c'est quand même très important. Ça ne veut pas dire que certains élèves n'en pensent pas moins, mais quelque part, avec un bon cours, vous les désarmez.
Très bien, vous n'avez perdu espoir ni l'un ni l'autre. Alors, un dernier mot sur le rire. Avant de vous demander de réagir à un autre témoignage, c'est un texte de Barthes sur Perceval. Il dit au cinéma, Perceval, film de Romère, au cinéma, la fumée risque de gêner les spectateurs, c'est pourquoi on l'interdit. Mais les rires qui, derrière moi, accompagnent ce film qui m'émeut, que j'aime, que j'admire, aucune loi ne les interdit et pourtant, ils me blessent. Les gens rient parce qu'il rit des mots et il rit de la simplicité du héros. Et il dit, rire, là, c'est affirmer le refus de la différence. Rire veut dire, je ne comprends pas l'autre, je ne veux pas de l'autre, je veux le même, je veux seulement d'un Moyen-Âge où rien n'est différent d'aujourd'hui, sauf les costumes. Alors, veulent-ils cela, vos élèves, par exemple ?
J'ai passé le début de Perceval vendredi dernier.
Ben voilà.
Voilà, ça tombe bien. Les élèves étaient évidemment mort de rire pour plusieurs choses. D'abord, il y a quand même les années 70, les gens qui chantent avec leur coiffure de l'époque et les tenues mauves. Il y a le fait que quand même Perceval emploie le mot baiser 15 fois par phrase, oui, ce qui peut faire rire les élèves.
Il le
donc,
dit d'ailleurs.
C'est normal. Déjà, le film est assez drôle. Mais il n'empêche que petit à petit, les élèves donc, ont rigolé. Je dis, vous allez rigoler, déjà, j'ai déminé. Ils ont rigolé, et puis j'ai dit, si vous voulez, j'arrête, hein, je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Puis ils m'ont dit, ah non, madame, c'est émouvant. Donc, du rire, il y a une sorte d'échelonnement de sentiments, et ensuite, qui passe du rire à la moquerie, à la tendresse. Et Perceval, à part ça, c'est un héros, il est marrant, Perceval. Enfin, moi, ça me fait rire, même chez Chrétien de Troyes, je trouve qu'il est rigolo, quand même.
Oui, mais pas... Enfin, vous voyez bien ce que veut dire Barthes, quand même. Est-ce qu'il y a une sorte d'intolérance au dépaysement? Parce qu'on nous parle sans cesse de l'autre. Et en même temps, au nom de l'autre, on interdit le dépaysement à l'école. On dit ne les accablez pas de vos références lointaines. Soyez proches d'eux, soyez proches de leur univers, de leur culture, prétendument ouverte, etc. Est-ce que vos élèves, Yannis Roder, accepte d'être dépaysé. Il viendrait à personne aujourd'hui l'idée d'étudier les tragédies de Corneille et de Racine. Moi, je suis professeur de français à l'origine, ou les comédies de Molière, comme on le faisait tout au long de nos années de collège et de lycée. Et les inspecteurs d'académie, quand des professeurs s'obstinent, leur tapent souvent sur les doigts en disant mais enfin, écoutez, c'est pas eux, ça, c'est pas eux. Donc, est-ce que vous sentez cette espèce de difficulté des élèves à voyager loin dans le temps avec vous?
Oui, il y a une vraie difficulté. Mais cette difficulté tient d'abord, je crois, au problème de la langue. Me semble-t-il, aussi bien dans Perceval de Homère que dans les textes, par exemple, des philosophes des Lumières, la langue est extrêmement compliquée. J'ai en tête un élève qui, c'est un professeur de français de mon établissement, qui me racontait l'anecdote. Il étudiait un texte de Victor Hugo. L'élève a demandé, mais c'est en quelle langue, monsieur ? Effectivement, il y a d'abord cela. Et comment pourraient-ils se dépayser quand cette langue qu'ils lisent, qu'ils découvrent, qu'ils entendent, finalement, pour beaucoup, ils la comprennent mal, voire ils ne la comprennent pas. Et ça, c'est un obstacle à l'ouverture, c'est un obstacle réel que je sens, moi, au quotidien, un obstacle réel à ce dépaysement dont ils auraient besoin, dont ils ont besoin, et en même temps qu'ils ne refusent pas nécessairement.
Vous êtes d'accord avec ça? C'est
oui,
ce problème de la langue, du vocabulaire qui,
ça, évidemment,
qui se restreint.
Pour Chrétien de Troyes, je crois que moi non plus, je ne suis pas très forte. Mais non, mais dans Perceval, il y a deux choses. On va reprendre l'exemple de Perceval, puisque vous l'avez pris, donc la langue est difficile. Celle de Homère, en plus, est complètement inventée, donc ce n'est pas non plus l'exemple type. Mais il y a chez eux un côté dépaysement quand ils entendent l'histoire de Perceval. En même temps, ils font le lien. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que c'est à la fois un dépaysement, mais aussi un retour au centre et à ce qu'ils connaissent. Ils font le lien avec cette série Kaamelott dans laquelle il y a un Perceval. Ils font aussi le lien. On en est venu à une discussion qui est intéressante. Alors, peut-être que ça va vous choquer, mais c'était faut-il être élevé contre son monde, en dehors du monde ou dans le monde? C'est là quand même la question que pose aussi Perceval. Et je crois que c'est une question qui les touche, justement.
Oui, alors quand même... Je m'excuse d'être le rabat-joie de service, mais au baccalauréat, il y a eu cette année, dans je ne sais quelle académie, un poème de Victor Hugo à expliquer, des contemplations, un dialogue, je crois, entre une tombe et un brin d'herbe. Et il y a eu sur Internet un mouvement de protestation des élèves, t'es qu'un enfoiré, Victor, fuck Victor Hugo, ton herbe, t'avais qu'à la fumer, puisqu'évidemment, on est dans le royaume de la dérision, du rire, de l'humour, etc. Mais une espèce de truc... Mais qu'est-ce qu'ils vont nous embêter avec ça? Avec ça? Alors, c'est vrai, maintenant, sans doute serait-il moins hostile à un sextoy de Paul McCartney, Place Vendôme, parce que ça, au moins, ça fait marrer.
Il serait indigné.
Peut-être.
Non, si vous essayez de faire autre chose que de la grande culture, ils vous le font sentir, les élèves.
Mais
vous
voyez bien qu'il y a quand même. La question que je me pose sur cette difficulté à dépayser les élèves et sur le renoncement, peut-être, d'une partie de l'institution à le faire, elle n'est pas complètement tombée du ciel.
Je crois qu'ils ont un rapport au temps qui est très différent du nôtre. Ils vivent absolument tout au présent, parce que je remarque en tout cas dans les émissions de télé-réalité, tout est raconté au présent. Et maintenant, quand on entend des interviews, les gens parlent de leur passé en disant « à 5 ans, j'entre au CP, à 8 ans, je sais déjà ». Le présent à tout amalgamer. Donc c'est vrai qu'ils ont du mal à considérer le temps du passé.
Et vous êtes professeur d'histoire, c'est donc...
Mais oui, mais ils ont du mal à appréhender... Mais c'est un métier difficile, je ne le cache pas, mais... Oui, ils ont du mal à appréhender le passé autrement que comme une sorte de présent que l'on va commenter. Même, en fait, la vérité pour les élèves est dans le commentaire. Elle n'est pas dans l'existence, elle est dans le commentaire que l'on va faire soit sur Twitter, soit sur Facebook, soit dans la blague, soit dans la parodie. Et, il fonctionne comme ça, vous pouvez le déplorer, mais il faut en tenir compte.
Je reviendrai à la question de... l'enseignement de l'histoire dans une époque où le présent devient le temps réel, comme on dit. Mais un dernier mot sur le nouveau public. Sophie Delcourt, qui elle est une toute jeune enseignante de collège, a publié avec Louise Queneau un livre sur sa première année au collège, Jour de collège, une prof débutante en banlieue. Et je voudrais vous citer une anecdote pour voir si elle résonne en vous. Deux élèves, Simina et Souleymane, viennent voir cette enseignante, on veut vous parler, elle est prof d'histoire aussi, oui, et elle n'a pas envie, parce qu'ils ont été très bruyants et elle leur a durement reproché. Et finalement, elle est obligée d'entrer en dialogue avec eux, alors ils disent qu'elle en a fait des têtes de turc, et argument suprême, vous êtes raciste madame. Mais ça ne s'arrête pas là, elle est, il la bouscule, et puis il l'enferme dans la classe, il verrouille la porte. Donc elle est très très mal à l'aise. Après l'avoir bien menacée, finalement, ils ouvrent la porte. Elle rédige un rapport consignant leur attitude. Mais première chose, le principal refuse vraiment de se mettre de son côté. Ses élèves vous ont chahuté, mais de là à sortir les grands mots. Vos collègues feraient mieux de vous donner des conseils pour gérer vos classes. Vous êtes une débutante. Cela dit, si vous demandez officiellement la tenue d'un conseil de discipline, je serai obligé d'examiner le cas. Le conseil de discipline a lieu. Finalement, ils sont exclus. Ils sont exclus définitivement, les deux élèves du collège. Et rançon de cet apparent succès, cette Sophie Delcourt, donc, sort de chez elle, et elle sort du collège, et à la sortie du collège, elle est agressée par un groupe d'élèves rassemblés sous l'abribus. Sale française, sale pute. Donc, et elle a eu du mal à se remettre de cette expérience. Et ces jours de collège sont des jours vraiment extraordinairement difficiles. Mais que faut-il faire? Je lis cette anecdote. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en pense? Quelle conclusion dois-je en tirer? Yannis Roder.
Alors, c'est compliqué parce que bon, la situation, chaque situation se gère au coup par coup, mais effectivement, il peut arriver hein, de ce type d'incident, et effectivement, j'en ai connu dans mon établissement il y a quelques années maintenant. C'était difficile à gérer, et c'est toujours difficile à gérer, d'autant plus qu'une administration, l'administration peut parfois ne pas suivre l'enseignant ou mettre en...
Mettre en
regard, si vous voulez, la parole de l'enseignant et la parole des élèves. Hein. On va auditionner l'un, on va auditionner l'autre. Bon, évidemment, quand vous avez ce type de, ce que je considère, moi, dysfonctionnement, c'est la porte ouverte à des débordements. Après, sur le fait que cette jeune enseignante manque de formation, c'est une évidence. On balance dans des endroits extrêmement compliqués, extrêmement difficiles.
Sale française, sale pute, c'est
quand même pas parce que... Je vais y venir.
Manque de...
Bien sûr, je vais y venir. Après, c'est aussi un savoir. On apprend sur le terrain à gérer les conflits, ce qu'on n'apprend jamais. Nous, excusez-moi de le dire comme ça, mais finalement, on est prof, pourquoi ? Parce qu'on est des forts en thème. On était des forts en thème. Mais la situation humaine, cette situation-là, cette situation de violence, on ne sait pas la gérer. On ne nous apprend pas à la gérer.
Et vous vous rendez compte de ce que ça veut dire par rapport même aux élèves que vous avez été ? Maintenant, il paraît que... Avant, il y a eu naguère, un grand débat entre les pédagogues et les républicains. Je pense que ce débat est clos, c'est pas moi qui veux le relancer, puisque maintenant on vous dit que ce qu'il faut savoir, c'est tenir une classe. Les pédagogues, ils voulaient pas tenir une classe, ils voulaient abolir l'estrade. Ils voulaient pas du tout tenir la classe. Maintenant, tenir une classe. Et j'ai même entendu un professeur dire à la télévision qu'il faut savoir qu'enseigner est un sport de combat. Mais ça veut dire qu'on a changé de monde.
Alors, enseigner,
c'est encore un monde.
Non, enseigner, c'est pas du tout. Enfin, moi, je le vis pas comme ça. Hein. Je vais pas à la boxe tous les matins, heureusement, ou à un match de rugby. La formation, c'est un réel problème, parce que gérer de l'humain, c'est pas évident. Vous avez en face de vous des gamins, enfin j'ai en face de moi des élèves qui, je ne connais pas leur vie et je n'ai pas nécessairement besoin de la connaître et envie de la connaître, mais ce sont des vies très compliquées. On a en face de nous des êtres humains, des individus qui vivent des vies parfois extrêmement difficiles et ils ne laissent pas leur vie à l'entrée du collège. Donc on est obligé de faire avec cela. Et effectivement, ce sont quelques années d'expérience qui font qu'on apprend à gérer ce type de situation. Alors après, sur le sale pute, sale française, effectivement, là, on est dans d'autres considérations, des considérations qui touchent aux représentations du monde que peuvent avoir certains élèves, je dis bien certains élèves, et effectivement...
C'est un groupe, hein, c'était pas un individu isolé.
Oui, en sachant que la conduite de groupe est aussi porteuse de ce type de fonctionnement et de discours, hein, c'est tout le monde, nous savons tout cela. Mais effectivement, il y a aussi des représentations du monde qui font que des élèves voient l'enseignant ou l'enseignante qui arrive, qui ne parle pas comme eux, qui vient d'un autre milieu, qui la voit comme quelqu'un qui est différent et qui cherche à imposer un ordre que parfois certains ne veulent pas.
Mais Yannis Roder, il faut peut-être aller un peu plus loin. Est-ce qu'on ne peut pas, et je vous pose la question à tous les deux, est-ce qu'on ne peut pas considérer que l'école est l'un des lieux, ou même le lieu majeur, où se manifeste aujourd'hui la crise de l'intégration que connaît la France? Il y a une crise de l'intégration et c'est quand même à l'école que ça se voit.
Mais c'est dans les cours. Il y a des différences quand même. Ce sale français, sale pute. En dehors des cours, vous n'allez pas rassembler les élèves en folie dans la rue pour leur faire un petit cours d'éducation civique. Sale français en classe, c'est quelque chose...
Mais ils sont français, ceux qui disent ça
français.
Voilà,
mais il suffit de l'expliquer. Il suffit d'être ferme aussi. C'est une question de... Alors, ça ne suffit pas pour régler tous les problèmes de la France.
Pas seulement.
Mais convaincant et de jouer sur les ambiguïtés, sur les contradictions, sur l'histoire de la France. En cours, ce genre de situation est complexe, mais elle est surmontable. Dehors, l'insulte et la violence, elle ne peut pas faire grand-chose.
Il n'y a pas simplement... Quand je lis dans des derniers rapports du Haut Conseil à l'intégration que trois questions provoquent des situations de tension dans certains établissements, l'enseignement du fait religieux, l'extermination des Juifs d'Europe, le Proche-Orient, je me dis, il se passe quelque chose, surtout quand j'ajoute à ce rapport le rapport Aubin de 2004, où on expliquait que c'est aussi l'enseignement de la littérature, de la philosophie, qui posait des problèmes. Madame Bovary est contraire à ma religion, ou autres propos du même ordre, et dans l'enseignement de l'histoire, même tout ce qui pouvait faire référence de près ou de loin à l'érection des cathédrales, etc. Donc, tout cela quand même, même si vous réussissez dans le cours à imposer un certain ordre, témoigne d'une crise qui affecte en premier lieu l'école, non ?
Je crois qu'elle peut être réglée, en tout cas, à l'intérieur de l'école. Je ne sais
d'accord.
pas si tes élèves te disent ça. Ça ne va pas régler. Il y a l'extérieur. Le problème, c'est qu'on est une petite structure, d'accord. une petite institution pas très en forme face à des délires de la société qui nous dépassent largement. Mais justement, quand ça s'exprime en classe, ce qui ne s'exprime pas si fréquemment, parce que dès qu'on a de l'autorité, dès qu'on est apprécié de ses élèves, dès qu'on fait des cours, les élèves ne nous disent pas ça. Cette forme de contestation qui peut avoir une réalité dans leur tête... c'est la provocation aussi en classe. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, ce sont des adolescents. Mais quand ça s'exprime en classe, il est très simple d'expliquer les choses. Alors, ça dépend pourquoi. Les cathédrales, à mon avis, ça se fait en 5 minutes. Madame Bovary, 5 minutes. L'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ça me semble extraordinairement difficile. Mais le Proche-Orient,
si
moi
madame...
je sais que le Proche-Orient, quand j'ai des remarques sur le Proche-Orient, je dis, prends une carte, vas-y, dis-moi quels sont les pays limitrophes d'Israël. L'élève, il va se rasseoir tout penaud.
Et ça peut être aussi la colonisation, l'Algérie. Cette Sophie Delcourt s'attaque à la correction des 5 dernières copies d'un contrôle sur l'Algérie. Eh bien, l'une des copies est ornée de drapeaux algériens et marocains avec des phrases, vive l'Algérie et vive le Maroc.
Oui.
Certains, à propos des harkis lui ont lancé, bien fait pour leur gueule, qu'ils aient été massacrés. Oublions la question palestinienne et même la question juive,
sur les harkis,
et que c'est quand même une difficulté incroyable.
Mais sur les harkis, je l'entends tous les ans. Je l'entends tous les ans, bien sûr. Mais vous le savez très bien que beaucoup d'élèves ne se revendiquent pas du pays dans lequel ils sont nés, mais du pays de leurs parents, c'est une évidence. Ce qui n'empêche pas qu'ils sont profondément français en réalité, mais qu'il y a chez certains, et encore une fois chez certains, un fantasme sur... et aussi des problèmes identitaires, très clairs. Voilà. Même si je... Alors, Alors, ce que je sens poindre, mais ce n'est qu'une hypothèse, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a moins ce rapport au pays d'origine et plus un rapport à la religion. Qui commence à poindre et qui fait que certains élèves ne s'identifient plus au pays des parents ou des grands-parents, mais à la religion. Oui. Et ça, c'est un phénomène que je commence à observer.
Voilà. Alors, pour qu'ils s'identifient à la France, il faudrait leur enseigner la littérature française, France patrie littéraire, et peut-être l'histoire de France. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que vous enseignez encore l'histoire de France ou est-ce que l'histoire que vous enseignez est diluée dans un ensemble plus vaste ? Et je vais préciser ma question. Je passe de temps en temps devant l'Assemblée nationale. Je vois quatre bustes. Sully, Michel de l'Hôpital, le chancelier d'Aguesseau et Colbert. Mettons de côté le chancelier d'Aguesseau, même de notre temps, on ne s'est pas attardé à nous parler de son œuvre de juriste sous la Régence et sous Louis XV. Bon, ça. Mais est-ce que les élèves que vous avez au collège, et puis ensuite, ils sortent de vos cours en sachant qui sont Colbert, Sully et Michel de l'Hôpital, dans quel siècle ils ont vécu, et l'essentiel de leur apport à notre histoire.
Moyennement.
Maragoyer.
Non. Alors, on va parler de Sully, parce qu'il m'intéresse beaucoup, Sully, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je passe devant l'Assemblée nationale aussi, j'ai un petit pincement au cœur. Je me fais quand même tout, là, Henri IV, labourage et pâturage, les mamelles de la France, la poule au pot, le ver galant. C'est pas possible que, quand même, qu'on n'enseigne plus ça. Et en même temps, c'est là. Ce n'est pas de notre faute. D'abord, on a beaucoup enseigné. On est en 2014, il s'est passé beaucoup de choses au XXe siècle. Donc, on ne peut pas tout faire. Et puis, par ailleurs, on a éradiqué tout ce qui était les vignettes et le kitsch dans l'histoire, qui est revenu, ça, j'en suis convaincue, par d'autres moyens, par le développement durable et l'étude du monomotapa. Mais on l'a éradiqué, c'est-à-dire les vignettes et les historiettes. Et ça, je trouve ça dommage, mais je pense qu'il faut les enseigner. Mais si vous faites tout d'un coup, au milieu du programme de 5e, 2 heures sur Sully et Henri IV, ça va complètement déséquilibrer. Mais en revanche, il y a un grand manque dans l'histoire. C'est l'histoire de l'histoire, enfin c'est les lieux de mémoire, c'est tout le travail de Pierre Nora qui me semble vraiment manquer cruellement à l'enseignement de l'histoire. Ça, c'est dommage, oui.
Yannis Roder.
Moi, je vous dirais qu'il ne faut pas nous raconter d'histoire. C'est-à-dire que mes élèves, j'essaye de leur apporter le plus que je peux leur apporter, mais quand ils savent qui est Louis XIV, je suis content. Bien sûr, il faut, voilà.
Et pourquoi Est-ce que ça tient au monde dans lequel ils vivent? Est-ce que ça tient au nouveau contenu de l'enseignement?
Non, ça tient à d'abord une chose, c'est que les programmes sont très importants. On nous demande de voir beaucoup de choses relativement vite, ce qui fait que ces élèves déjà ont du mal à imprimer. Le travail est fait, mais voilà, ça demande de la répétition, ça demande de revenir dessus. Nous n'avons pas le temps de revenir dessus. Et parfois, les programmes nous poussent à ce qu'on pourrait considérer du zapping, en réalité.
Il y a un mouvement pour des programmes moins ambitieux et plus axés à la fois sur le
nous
pays
verrons,
où ils
nous
vivent
nous
et
verrons.
Sur la chronologie, puisque vous me dites tous
mais
les deux qu'ils ne vivent qu'au présent.
Oui, mais la chronologie n'a pas disparu des programmes. Hein. La chronologie et l'histoire de France n'a pas disparu. Mais on est, par exemple, sur le programme de 5e, puisque là, on est sur le programme de 5e avec ces trois hommes, on est sur un temps long de la construction de l'État en France. Voilà. Et c'est cela qu'on va essayer de faire passer, de faire comprendre. Alors, on peut le faire passer par des personnages historiques, par Colbert, par exemple, pourquoi pas. On peut...
Mais
bien sûr, mais si déjà mes élèves ont retenu que la monarchie absolue, c'est Louis XIV, je suis dans les objectifs, je suis content.
Mais il n'empêche que même si on est content, là où je suis soucieuse aussi, c'est qu'il y a une partie de la jeunesse en France qui connaîtra encore tous les slogans et les gimmicks de l'histoire tels qu'on les a aimés, et une partie qui n'est connaîtra pas, c'est-à-dire la pucelle qui boute, certains connaîtront, d'autres connaîtront pas. Enfin voilà, une perte culturelle de pas connaître.
On peut enseigner l'histoire à travers des personnages sans nécessairement tomber dans le kitsch.
L'œuvre
de Colbert est une œuvre ambivalente, si vous voulez. Bon, c'est sûr qu'il a rétabli les finances du royaume, mais c'était un homme, semble-t-il, qui s'est enrichi considérablement. Donc, vous voyez, on peut parler de tout ça sans être ridicule. Simplement, effectivement,
ridicule,
il faut incarner un peu l'histoire.
Non. Et surtout c'est aussi une question de moyens, c'est-à-dire du temps qui nous est imparti pour faire ces programmes, pour arriver au bout des programmes, parce que c'est quand même une chose sur laquelle nous sommes nous sommes jugés, nous enseignants, par le corps d'inspection qui vient nous voir en disant voilà, vous en êtes tous dans les programmes, les programmes, les programmes, les programmes. Et finalement, on se demande effectivement tout cet aspect culturel, parce que c'est de la culture, c'est de la vraie culture, tout cela. Eh bien, tout cela passe par pertes et profits finalement, et c'est cela qui effectivement est dommageable.
Alors, je vous demandais tout à l'heure de comparer le passé et le présent. Vous avez été élève, vous avez voulu devenir professeur. Y a-t-il parmi vos élèves des gens qui ont envie d'enseigner? Alors là, je vais vous faire référence encore à une histoire terrible, encore plus terrible que toutes celles que je vous ai racontées, mais c'est cette jeune enseignante du lycée Louis Blériot à Nantes qui, en novembre 2005, je crois, a été agressée à coups de couteau. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle disait le climat était horrible avant cette agression. Donc je ne peux pas simplement considérer que c'est un acte isolé, individuel, de quelqu'un qui elle a demandé d'enlever sa capuche et qui ne voulait pas. C'est autre chose parce que les élèves faisaient sans cesse de la provocation et parlaient de l'inutilité des profs qui gagnent 1500 euros par mois. Un mépris tenant justement au fait que ce n'était pas une profession très lucrative à une époque où les stars de la chanson, enfin du rap, je ne sais pas, ou du rock, sont beaucoup plus prisées que les grandeurs de l'esprit, pour parler comme Peggy. Alors, est-ce que vous avez, vous sentez, en troisième peut-être, sinon il est trop tôt, des vocations s'éveiller pour le métier que vous exercez, ou au contraire, est-ce que vous sentez cette légère condescendance des élèves pour un métier qui ne paye pas très bien?
La condescendance, on a pu la croiser dans notre carrière avec justement des références à notre salaire. Mais on a aussi des élèves qui, tout d'un coup, s'exclament « Comment vous faites pour savoir tout ça ?» Enfin, c'est les deux. C'est à la fois, c'est compliqué. Des élèves qui veulent devenir enseignants, oui, je crois que c'est pas... Mais c'est plutôt un système, ils ne se disent pas « Tiens, j'ai envie de transmettre la haute culture ». Ils se disent « J'ai envie d'être comme mon prof qui est en face de moi et que j'aime beaucoup ». Je crois que c'est...
Oui, c'est lié beaucoup. C'est, oui, c'est
comme nous à l'époque.
Effectivement lié, bien sûr, au rapport que l'on peut tisser avec l'enseignant, au lien qu'on peut tisser avec lui. Profession pas lucrative, oui, mais enfin bon, ça dépend là encore où on habite. Les élèves ne sont pas tous des dealers et non pas tous et sont pas
donc,
tous admiratifs de
Thierry Henry. Vous pensez être encore à même de susciter des vocations l'un
mais
et l'autre?
Non seulement je le pense, mais j'ai des élèves qui viennent me voir, des élèves qui sont maintenant en terminale. Ils me disent voilà, moi j'ai envie de faire prof, peut-être même prof d'histoire. Et,
ah bon.
Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire.
Absolument.
C'est le plus beau compliment. Évidemment, c'est rare. Mais ça arrive.
On est encore des modèles.
Bon, bah, très bien.
Pour certains.
C'est une très belle conclusion. Vous êtes encore des modèles. Mara Goyet, vous avez publié Jules Ferry, L'enfant sauvage, chez Flammarion. Et je rappelle le titre de votre livre, Yannis Roder, Table noire, la défaite de l'école, chez De Noël. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, nous laisserons notre place à la matinée des cultes du 1er novembre. Nous nous retrouvons le 8 novembre pour une émission qui aura pour titre « La Chine hier et aujourd'hui ». Mes invités seront Lucien Bianco et Pierre Pachet. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Pascal Bénard. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet, Aristophane. Le rire a-t-il changé ?